Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mer 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, j'espère que tu es en forme.
Oui, je suis en forme. Oui. Et toi, est-ce que ça va?
Oh ben ma foi aussi. Eh ben j'ai essuyé les orages comme tout le monde ces jours-ci, on n'a pas un petit peu là... Bon, le beau temps revient. On a eu quelques orages, c'était quand ça? Dimanche, non, je sais plus. On a eu des, même de là, un petit peu de giboulée. On a eu, ben voilà.
Les températures étaient fraîches pour cette fin août. Là, on est passé en septembre, ouais. Ben voilà. On sait que l'automne approche.
Bonjour à nos auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous, mes chers auditeurs. En tout cas, je vais vous faire un aveu. Moi, sous les giboulées l'autre jour, j'étais dans la voiture, ben j'étais pas fière. Parce que quand ça tombe, on a un peu la pétoche quand même. Hein. Voilà. C'est pour dire que je suis très lâche. Bon. Bon. Alors, on va parler de cinéma quand même, hein, malgré tout. D'accord ? T'es d'accord, Damien ?
C'est pour ça qu'on est là.
C'est pour ça qu'on est là. De toute façon, les cinémas sont ouverts. On ira tous au cinéma. Eh bien oui. Bon, en tout cas, je vais commencer par un film qui sort en fait, qui est sorti d'ailleurs, parce qu'il sortait le premier. Il sortait le premier, c'est-à-dire hier.
D'accord, un mardi.
Eh oui, il sortait. Et c'est un film assez curieux, d'ailleurs, assez incroyable. Ça s'appelle Blood Machine. Et c'est de la science-fiction, c'est de l'aventure, c'est musical. C'est interdit au moins de 12 ans, hein, il vaut mieux le dire maintenant. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et puis, c'est quand même assez... c'est très chouette. En tout cas, ça a été présenté dans tous les festivals, les festivals de science-fiction, d'aventure, enfin tout ce qui existe comme festival musical, aventure, science-fiction. Voilà, les trois mélangés. Et c'est quand même assez... c'est un film assez incroyable. C'est quoi Blood Machine ? Eh bien, Blood Machine suit, deux chasseurs de l'espace qui traquent une machine tentant de s'émanciper. C'est une époque où ça fonctionne avec des machines, parce que c'est une année très ancienne, hein. Enfin, c'est dans, je sais pas, on peut situer ça dans les 3000 ans, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça, oui. Donc, tout est machine, hein, il y a des humains, bien sûr, mais les machines font tout, absolument tout. Et oui, on ne sait pas. J'espère qu'elles font aussi la vaisselle, je ne sais pas du tout. Hein. Là, je n'ai pas vu les détails, mais enfin, elles font tout. Du coup, il y a des machines plus intelligentes, comme dans beaucoup de films de science-fiction d'ailleurs, où la machine prend le pouvoir. Et donc, ce sont des machines qui s'émancipent dans l'espace, voilà. Et après l'avoir abattue, c'est-à-dire que les deux chasseurs abattent cette machine, ils assistent à un phénomène mystique. C'est quoi ? C'est le spectre d'une jeune femme qui s'arrache de la carcasse mécanique comme si cette dernière avait une âme. C'est là que ça devient particulier quand même, ce film. Démarre alors une course-poursuite à travers l'espace pour comprendre la nature de ce phénomène. Voilà. Les images, enfin, c'est en version originale, mais quand on voit les images, effectivement, on voit cette femme-là, ce spectre d'une jeune femme qui sort comme ça de la machine. C'est assez impressionnant. C'est très bien fait, en tout cas. Pour les amateurs de science-fiction, d'aventure, c'est vraiment très, très chouette. Alors, on a, dans les acteurs principaux, on a Elisa Lasowski. On a Noémie Stevens et Anders Heinrichsen qui sont des habitués de ce genre de cinéma d'ailleurs. Ils sont très. Alors c'est le réalisateur en fait. On dit que le réalisateur s'appelle Seth Eckerman, mais en réalité, enfin c'est le nom qu'on a, mais en réalité, en fait c'est un pseudonyme, Seth Eckerman, et il y a deux réalisateurs français qui se cachent derrière ce pseudonyme, qui sont Raphaël Hernandez et Savitri Joly Gonfard. Ce sont des amis, des collaborateurs depuis plusieurs années, un peu plus de 15 ans d'ailleurs. Et ils ont d'ailleurs signé tous les deux des clips et des courts-métrages. Donc ils sont derrière ce pseudonyme. Alors en fait, Blood Machine, pour ceux qui connaissent, je suis sûre que dans nos auditeurs, il y en a qui connaissent sûrement, c'est la suite de Turbo Killer, qui est un clip réalisé par précisément Seth Eckerman pour l'artiste électro-français qu'on connaît, Carpenter Brut. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, toi, Damien, Carpenter Brut.
Non.
C'est un musicien électro. C'est lui d'ailleurs qui a composé la musique du film, qui est assez incroyable. La musique est quand même. En fait, le film Blood Machine a vu le jour grâce à une campagne, de financement participatif sur Kickstarter. Donc, ils ont réussi à. Alors, il y a 50 minutes de film et il y a également, après, il y a 50 minutes ou 52 minutes de making-of. C'est quand même assez. Alors, c'est titré « Nous n'avons jamais rien vu de tel. Un rêve cyberpunk ». Une Star Wars sous acide. Et c'est à voir dans les salles qui suivent le réseau CGR Events. Et il y en a beaucoup quand même hein, de salles. Voilà, ça dure 1h42. C'est pour les amateurs de science-fiction, d'aventure, de musical aussi. C'est vraiment. Là, c'est un truc inouï, quoi. C'est pour ça que je voulais absolument le mettre de côté. Voilà, Blood Machine. Ah ouais, il faut regarder les images. Si vous pouvez, mes chéris, si vous pouvez regarder les images un peu, si vous avez de quoi pouvoir regarder, c'est en VO, mais enfin, on peut regarder les images, allez voir, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Ah, j'ai mis de côté une comédie. Alors, bon, on retrouve d'ailleurs des acteurs qu'on aime beaucoup dans cette comédie. Alors, ça s'appelle Poisson Sexe. Et c'est le titre.
En un seul
Ah oui.
mot.
Oui, on a exactement, tu fais bien de le préciser, parce que oui, effectivement, poisson sexe, en un seul mot. Oh ben ça, c'était un mot que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas toi si tu connais, mais je ne connaissais pas ce mot, poisson sexe. En fait, c'est du cinéma, c'est ça qui est merveilleux. Donc, c'est une comédie d'Olivier Babinet. Olivier Babinet, c'est un réalisateur scénariste français. Oh, bah, il connaît bien son truc. Il a déjà eu un prix, 12 nominations. Il est quand même. Voilà, il a eu. Et son film Poisson Sexe a une nomination au Festival du film de Cabourg 2020 dans la catégorie Journée romantique, plus un prix spécial du jury au Festival international du film de Bordeaux. Eh oui, ça se rapproche. Donc, c'est quoi? Ben, c'est quoi l'histoire? Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l'envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d'être père et compte bien traiter ce problème scientifiquement. Le hic, c'est qu'à Belle-Ronne, c'est belle, bah oui, hein. C'est qu'à Belle-Ronne, il y a seulement trois femmes en âge de procréer, soit une chance sur 6, sur 6 000, attention le chiffre, sur 6 232,33 de rencontrer la mère de ses futurs enfants. Oui, c'est quand même pas facile, là. Une chance sur 6 232,33, ah oui, quand même. Pourtant, un jour, en sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre à tomber amoureux. Alors, c'est qui Daniel? Ben, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Moi, je dis que c'est un nounours quand j'en parle. Parce que je trouve qu'il a l'aspect, je sais pas, il fait penser à un nounours. C'est gentil, un nounours. Hein. Je n'ai pas dit un ours, hein, j'ai bien dit un nounours. C'est gentil, c'est Gustave. Oh, bah, tu devines qui c'est quand
Mais
même.
c'est ton nounours préféré, Gustave Kervern.
Voilà, c'est mon nounours préféré, Gustave Carverne, c'est Daniel. Il est fantastique, quoi, comme d'habitude. Bon, voilà, dans ce film. Il est bien entouré, en tout cas, c'est un joli casting. On a India Eyre aussi. Dans les rôles principaux, on a Hélène Dorrit Petersen. Alors, elle, Hélène Dorrit Petersen, c'est une comédienne norvégienne. Pareil, elle est quand même assez formidable. On a Jean-Benoît, pardon, Hugeux. Alors lui, c'est un comédien belge. Parce que le film, la comédie est française et belge, en fait. Donc on a les deux. On a les deux comédiens, les deux sortes de comédiens, français, belges, et puis cette charmante norvégienne. Alors c'est en fait il a commencé, Olivier Babinet, il a commencé à travailler sur son film en 2013. Eh oui, hein, il avait envie d'écrire une comédie romantique, voilà. Donc il a fait la liste de tous les films récents qu'il avait préférés, et puis voilà, hein, il a vu qu'il y avait beaucoup de comédies romantiques un peu décalées, et donc il a voilà une comédie romantique dramatique, voilà, il avait envie. Ben, il l'a fait, et je trouve qu'il a bien fait, pour notre plaisir d'ailleurs. Alors en fait, l'idée, il a fait de la recherche scientifique, cette idée de recherche scientifique autour des poissons, ça lui est venu par rapport à Le Bidule. Le Bidule, c'est une série qu'il a coécrit lui d'ailleurs et réalisée pour Canal+. Alors pour ceux qui ont Canal+, ils ont peut-être dû voir quand même Le Bidule, c'est possible, hein. En fait, il s'agit d'un programme d'anticipation, voilà, qui parlait de choses graves et réalistes, avec un ton loufoque. Donc, quand il a commencé à écrire Poisson Sexe, il voulait lui-même avoir un troisième enfant dans sa vie. Alors, comment concilier ce désir avec l'état du monde? Voilà, c'était quand même pas évident. Donc, il trouvait que les gens autour de lui avaient du mal à avoir des enfants, ils étaient un peu trop vieux, ils faisaient des fécondations in vitro, etc. Ils galéraient. Alors, bon, voilà, c'était pas évident. Et du coup, voilà, il a eu l'idée de ce film. Grâce à tout ça, il a un ami physicien aussi qui est directeur de recherche au CNRS. Donc, qui a dû le tuyauter quand même pas mal, hein. Et il s'est mis à travailler d'ailleurs sur l'activité cérébrale des poissons zèbres, ce scientifique. Alors du coup, ils ont échangé sur le côté scientifique du film. C'était pas bête de faire ça avec quelqu'un justement qui s'y connaît et dont c'est le métier. Alors le personnage de Daniel, de Gustave Carverne, est à la base du film. En fait, c'est lui. Oui, il s'agit d'un type qui ne s'est jamais remis. Enfin, il s'est jamais remis. Oui, c'est ça. Il s'est fait quitter par sa femme. Il s'en est jamais remis parce qu'elle a préféré avoir des enfants avec son chef de labo, un Américain charismatique, chouchou des médias. Eh ben oui. Alors du coup, le pauvre Daniel. Alors lui, il a toujours eu Daniel ce puissant désir d'être père. Donc du coup, ben voilà. Il a même carrément décoré une chambre d'enfant alors qu'il n'en a pas, quoi. Ça va jusque-là quand même chez lui. Donc ça explique un peu dans le film cette poursuite qu'il a absolument pour devenir père, quoi. C'est vraiment c'est très très fort chez lui. Oui, quand même, ça doit être assez rare de décorer une chambre d'enfant chez soi alors qu'on n'a pas d'enfant. C'est quand même quelque chose de. Je suppose. Hein. Alors Belle-Rose, la ville dont je parlais tout à l'heure, où il n'y a que ces. Très peu de femmes qui peuvent avoir des enfants là. En fait, c'est la ville pastel où cohabitent un labo scientifique et un centre de robotique. Ça a été pensé par Olivier Babinet, le réalisateur, comme une métaphore du monde. C'est-à-dire, les gens ont tout pour être heureux, mais une catastrophe s'approche. Voilà, c'est le truc. Voilà, donc ça, c'était pour essayer de comprendre un peu ce qu'a voulu faire le réalisateur. C'est une comédie extrêmement sympathique et qui vaut la peine parce que pour son casting aussi, justement. C'est ce que je disais au début, il est joli le casting. Voilà. Poisson sexe. Est-ce que j'ai dit combien de temps il durait, moi, mon poisson sexe? Non, je l'ai dit ou pas, je ne sais plus. Je ne l'ai peut-être pas dit. Il dure, eh ben je suis paumée dans mes fiches, il dure 1h29. Voilà. Donc une durée normale, hein, pour un film normal. Ensuite, ensuite, on change de genre. On se lance dans le thriller, le drame. Ça s'appelle Police. Et c'est réalisé par Anne Fontaine. Ah, Anne Fontaine, on la connaît, c'est une réalisatrice, scénariste. Elle est actrice également, d'ailleurs française. Elle a 61 ans, elle a déjà eu beaucoup, beaucoup de nominations. 32, pas de prix encore, ce qui m'étonne d'ailleurs. Ouais, m'étonne ça. Et son fils Police a une nomination, encore une, au Festival du film francophone d'Angoulême 2020, dans la catégorie avant-première. Mais elle fait, bon, voilà, Anne Fontaine. Elle tourne régulièrement, on peut toujours compter sur elle. Elle fait du bon travail, c'est toujours très très bien. C'est quoi ça? C'est l'histoire de Virginie, Eric et Astrode, qui sont trois flics parisiens qui se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser, s'échapper, puisqu'il s'agit d'un homme. Et donc, eh oui, donc là, on est sur un pareil, quoi. On est sur un problème assez épineux, hein, assez triste aussi. Les reconduites comme ça. Bon, on va pas s'étendre là-dessus parce que, voilà, c'est toujours assez, c'est terrible et bien. Donc, alors, pareil, là, on a un casting super chouette. Alors, dans les rôles principaux, Omar Sy, oui, Omar Sy qui revient, on est content de le revoir. Virginie Efira, belle. Comédienne vraiment extraordinaire. Elle a tout, Virginie Efira. Elle a la beauté, et elle a le talent. On a Grégory Gadebois, pareil, très 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 bon comédien. On a Peyman Mohadi également dans les rôles principaux. C'est pour ça que je dis bon, le casting est vraiment super. Alors Police, en fait, c'est l'adaptation d'un roman du même nom d'ailleurs, écrit par Hugo Boris et qui est paru en août 2016. Alors vous pouvez le trouver d'ailleurs chez Grasset. Il se trouve facilement ce livre. Il est très chouette d'ailleurs. C'est le producteur donc Jean-Louis Livy qui a fait découvrir ce livre à Anne Fontaine. Alors tout de suite, elle a lu ce livre, elle a été happée absolument par la trajectoire de ces policiers lambda confrontés à leur propre vérité au cours d'une mission pour laquelle ils n'ont pas été formés. Et oui, c'est pas évident quand même hein, de reconduire quelqu'un à la frontière, carrément. C'est quelque chose quand même de. Elle dit qu'elle a eu envie de suivre le cheminement intérieur de ces gens, de ces policiers, partager leurs questionnements aussi. Comment réagirait-on à leur place si on nous ordonnait de renvoyer un demandeur d'asile dans son pays? La question qu'elle pose, Anne Fontaine. Et voilà quoi. Et c'est vrai que le spectateur doit pouvoir naviguer avec ses propres interrogations, c'est ce qu'elle nous dit sur la transgression, sur la désobéissance. Et oui. Alors, elle retrouve Anne Fontaine, des acteurs qu'elle aime beaucoup, qui ont déjà travaillé avec elle. Elle retrouve Grégory Gadebois, Virginie Efira. Voilà. Elle avait d'ailleurs, elle les avait fait tourner dans sa première comédie qui était sortie en 2011. Oui, c'est ça. Mon pire cauchemar. Et ensuite, dans son deuxième film, Marvin ou la belle éducation. Qui est sortie en 2017. Et donc, elle les connaît bien, ce qui fait que le tournage s'est déroulé d'une façon extrêmement sympathique. Et voilà, quand les gens se connaissent, qu'ils ont déjà tourné ensemble, c'est sûr que il y a une facilité qu'on ressent, il y a quelque chose de bien, quoi. Quand je dis facilité, c'est dans le bon sens du terme, évidemment. Alors, elle a rencontré des policiers, Anne Fontaine. Elle fait toujours ça, de toute façon. Elle travaille ses films toujours. Elle les a rencontrés. Elle a beaucoup discuté avec eux. Elle a passé beaucoup de temps aussi dans les commissariats. Elle a rencontré d'autres policiers. Et d'ailleurs, elle a rencontré aussi des gens de la police des frontières. Des hommes, mais aussi des femmes, nous dit-elle. Ils sont désormais très nombreux dans la police, entre 30 à 40% des effectifs. Elle parle des femmes, là, hein, qui sont très nombreuses maintenant. 30-40%, c'est énorme d'effectifs. Oh, il y a 20 ans, on n'aurait absolument pas imaginé qu'il y aurait autant de femmes dans la police. Ça, c'est. Bon, ben voilà, c'est le progrès. Hein, c'est des progrès qu'on a fait quand même, Dieu merci. Et elle nous dit qu'elle a vu des êtres humains parfois très complexes. Alors, il y en a d'autres qui sont plus simples. Il y a des gens, en tout cas, qui n'avaient rien à voir avec tous les a priori qui circulent. Voilà. Elle ne les défend pas, ce n'est pas ça. Elle dit simplement ce qu'elle a ressenti, hein, Anne Fontaine, quand elle s'est retrouvée au milieu de ces policiers pendant plusieurs jours. Donc alors du coup, elle a fait un gros travail pour préciser les personnages, pour crédibiliser leurs actions et rendre la véracité de cette profession. Elle a retrouvé d'ailleurs certains de ses interlocuteurs au moment de la préparation parce qu'elle voulait qu'ils enseignent de bons gestes aux acteurs. Et donc, elle en a retrouvé d'autres d'ailleurs aussi sur le tournage pour jouer par exemple les scènes d'interrogatoire au centre de rétention à Vincennes et l'interpellation à Roissy. Elle avait besoin pour ça, pour ces scènes-là qui sont quand même très délicates, elle avait besoin de professionnels. C'est toujours comme ça qu'elle travaille, ce qui fait qu'elle réussit tous ses films, en fait. Voilà, elle a fait également la connaissance d'un réfugié à Vincennes, une semaine avant son départ. Et il lui avait dit d'ailleurs qu'il avait une femme et un bébé qui venaient de naître. Je vais vous trouver un avocat. Elle lui a dit, je vais vous trouver un avocat. Et voilà, et les trois policiers qui assistaient à l'entrevue lui ont dit, attendez, attendez, vous ne croyez quand même pas ce qu'il vous raconte. Il y en a un sur les trois, une sorte d'Éric, comme elle dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas très futé, qui lui a dit que voilà, vous ne pouvez pas croire ce qu'ils disent. Alors que les deux autres collègues étaient très mal à l'aise et qui se posaient, eux, justement, des questions. C'est pour ça, hein, c'est vraiment des situations terribles, quoi. Et c'était impressionnant, elle dit, voilà. Et quoi qu'il en soit, il s'agissait clairement de quelqu'un qui allait droit vers la pire misère. Alors, en fait, le film Police a été tourné en grande partie dans une voiture et en studio. Parce que tourner en extérieur, ça aurait pris des mois. Et, bon, elle n'aurait jamais pu réussir à filmer tous les visages tels qu'elle les a filmés de très près. Elle n'aurait pas eu de cadre aussi stylisé, elle n'aurait pas pu se permettre certains travelling. Et le commissariat d'ailleurs, qu'on voit dans le film, a aussi été entièrement recréé, en fait. Alors, j'ai donné son nom tout à l'heure, l'acteur Peyman Mahadi, c'est lui qui incarne le réfugié Tadjik. Elle l'avait repéré d'ailleurs déjà. Dans des films comme Asghar Farhadi, Une séparation, et À propos d'Elie aussi. Le film en avait parlé, je crois, à l'antenne de À propos d'Elie. Et puis dans d'autres longs métrages aussi iraniens, elle l'avait vu. Et c'est pour son côté Monsieur Tout le Monde, tout en dégageant beaucoup d'intensité, qu'elle l'a choisi. Sa partition était horriblement difficile, nous dit-elle. Il a joué sans la moindre complaisance, au point même d'accepter de se faire plaquer pour de bon au sol par des hommes du service des escortes. C'est sacré film quand même, hein. Mais chérie, franchement, là, c'est le film à voir quand même, hein. C'est le policier à voir, là. Intelligent, bien fait. Voilà, il est à voir celui-là. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, en plaisantant, quoi, ce film, c'est Bergman chez les flics. Que se passe-t-il dans la tête des policiers? Oui, parce que Bergman, lui, c'est tous les films qu'il a faits sont des films qui questionnent constamment, quoi. Il y a constamment des questions, justement. Qu'est-ce qu'ils expriment dans leur regard en parlant des policiers? Que nous donnent-ils à penser? Etc. C'est ça, quoi. Voilà. Police. Chouette film à voir, absolument. Ouais. Mettez-le de côté, celui-là, franchement.
Et on écoute la bande-annonce tout de suite.
Oui, merci.
Pourquoi t'es devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite.
Non, je voulais être patineuse.
Ah ouais?
Oui.
Et comment t'es passée du patin au flingue?
Je sais pas. Ça s'est fait comme ça.
Allez, bonne journée.
Merci.
Je te crois pas.
Et vos crises d'angoisse?
Vous savez, moi je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable.
Personne cherche à te domestiquer.
J'entends le vent souffler et j'avance.
L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas.
Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi.
Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière.
Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous fait faire ça?
C'est le type avec le pull orange, là. Méfiez-vous quand même.
Ils vont te tuer.
Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour?
Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié.
Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste?
Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort?
C'est moi le salaud, c'est ça. J'obéis aux ordres. C'est mon boulot, figurez-vous.
C'est juste un pauvre type.
T'as pas de couilles au cul, en fait, hein?
Pas les tiennes, en tout cas.
Vous me faites chier!
Personne n'est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tache sur mon dossier, et il a fallu que vous foutiez la merde.
Voilà, alors. Police. Donc, on va continuer maintenant avec quel film?
Ah, alors maintenant, on va continuer avec alors une comédie. Voilà, comme ça, on va passer un peu de... C'est bien de pouvoir un petit peu souffler, là, après ce genre de film, la police, qui est très bien fait, mais qui est quand même, qui interpelle quand même énormément. Donc, c'est une comédie, et le titre, c'est énorme. Alors, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce film énorme? C'est une comédie française, hein, de Sophie Letourneur. Sophie Letourneur, réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a déjà eu pas mal de nominations, Sophie Letourneur. Donc, c'est quoi? Eh bien, ça lui prend tout d'un coup, à 40 ans, Frédéric veut un bébé. Ah, ça commence comme ça. Claire, elle, n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. J'aime beaucoup le synopsis quand même. Je trouve assez sympathique. Alors, c'est pareil, là, on a un chouette casting. Ah oui, on a de la chance en ce moment quand même. On a dans les rôles principaux, bah, Claire, c'est Marina Foïs. Oh, formidable, elle est formidable cette comédienne. On a Frédéric, c'est Jonathan Cohen. Oh là là, on a Jacqueline Cacou. Alors Jacqueline Cacou, elle joue la mère de Frédéric. Et on a Ayala Cousteau, qui joue un professeur de piano d'ailleurs. Et donc, c'est quand même... Alors, Sophie Letourneur, elle a... Dans tous ses films, il y a une espèce de fantaisie, une légèreté, avec un réalisme assez brut d'ailleurs, quasi documentaire. Eh oui, cette chimie disruptive produite à un ton unique dans lequel le rire et l'émotion cohabitent. C'est très... Oui, c'est très spécial, effectivement. Ouais. Alors, elle dit, pendant le neuvième mois pardon, de ma seconde grossesse, nous dit-elle, je prenais des notes. C'était tellement dingue, ces rebondissements, cette attente, ces situations tragicomiques tellement énormes que j'ai voulu en faire un film. Et oui, ça pas, c'est curieux, enfin, c'est pas curieux, mais là, beaucoup de réalisateurs, quand même, partent de leurs propres histoires, de leurs souvenirs, de ce qui s'est passé pour eux ou dans leur famille. C'est très fréquent, hein. Finalement, ça arrive assez souvent, ça. Et ben là, c'est carrément, effectivement, ça part de son de son 9e mois de grossesse où, voilà, où elle a pris des notes. Alors au départ, en fait, c'était le projet portait pas sur le 9e mois, hein, c'est ce qu'elle nous dit. C'est particulier dans la vie d'une femme, effectivement, et d'un homme. Finalement, elle dit « j'ai quand même construit un récit ». Je dois ajouter aussi que mon mari m'inspirait beaucoup. Je me souviens d'une scène précise. J'avais dépassé le terme de ma grossesse. Nous marchions dans la rue pour favoriser les contractions et j'ai cru perdre le bouchon muqueux. En pleine rue, il a mis la main dans ma petite culotte pour vérifier. Je l'ai noté, trouvant cela à la fois drôle et en même temps vexant. J'avais aussi retranscrit des dialogues qui se retrouvent dans le film. C'est tout à fait amusant, c'est tout à fait drôle. Je crois que ça peut plaire à beaucoup de gens, et des femmes en particulier, justement, qui ont attendu un jour un enfant, ou qui attendent en ce moment un enfant, et qui ont vécu probablement comme ça des situations absolument tragicomiques, en fait, hein. On ne sait pas trop ce qui se passe. Comment on va s'en sortir au 9e mois, surtout justement où on n'ose plus aller trop nulle part, enfin on sait pas trop ce qu'on peut faire, si on peut marcher ou pas, etc. Enfin, donc ça peut réjouir énormément de femmes, ce genre de film. Donc c'est quand même, alors en fait dans Énorme, les deux personnages ils s'autorisent un comportement qui n'est pas représentatif, c'est un représentatif de rien d'ailleurs. Hein. Ça ne correspond pas à quelque chose de connu, c'est ce qu'elle nous dit, Sophie Le Tourneur. La grossesse passe par un parcours obligé, tout le monde doit faire les mêmes choses. Et ce qui m'intéresse, ajoute-t-elle, c'est la façon d'appréhender ce chemin. Cela n'a aucune vertu à généraliser, l'incongru me fait rire. En fait, je ne m'interdis rien et ce n'est pas une question de dosage. Pour parler de cet état-là, je suis partie d'éléments et pas d'une cohérence. L'enjeu était de faire une comédie parce que c'est mon langage, mais que ce soit aussi un peu horrifiant parce que les situations que j'écris peuvent être à la fois drôles, burlesques et horribles. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure et je disais tragicomédie. Hein, dans cette situation du 9e mois, c'est parfois assez troublant. Alors, il y a des dialogues extrêmement sincères dans ce film qui sonnent d'une façon très naturelle. Voilà, elle a même fait d'ailleurs pendant le quand elle organisait le film, elle a fait des séances d'improvisation avec des amis ou des personnes. Rencontrés au moment de ses recherches, quoi. Il y avait des sages-femmes, hypnotiseurs, agents, pianistes, femmes enceintes, futurs papas, etc. C'est ce qu'elle nous dit, hein. Ils ont joué entre eux les situations précises, des séquences du scénario de base. Et voilà. Donc c'était quand même assez. C'est pareil, hein. Son film est très travaillé. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment. Il y a un travail énorme. Ce qui en fait un très bon film. Là, les principaux interprètes, c'est Marina Foïs et Jonathan Cohen. Voilà, c'est eux, ils jouent un rôle. Ils jouent cela. C'est de là, tandis que les autres acteurs ont joué leur propre rôle avec leurs propres mots. Elle est là la différence quand même. Hein. Par exemple, pour le chaman que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, j'ai enregistré la première rencontre avec lui de façon à ce que l'écriture, qu'à l'écriture en fait, je reprenne le détail de ses mots. Voilà. Elle pioche beaucoup de matériaux dans ses films, dans le réel. C'est très ludique. Donc c'est un, oui, on dit bon, il y a un dispositif docu-fiction un petit peu quand même, finalement. Elle a filmé d'ailleurs les plans documentaires, les séquences d'improvisation, encadrant uniquement le personnel. On parle de l'hôpital, là, les scènes à l'hôpital. Voilà. C'était quand même. D'ailleurs, son équipe, enfin avec son équipe, elle a tourné pendant un mois à l'hôpital. Le personnel lui a fait confiance. Voilà, ils ont accepté qu'elle les filme dans leur travail. Bon, ce qui était une bonne chose. Moi, je suis pas surprise qu'ils aient eu confiance d'ailleurs, parce qu'elle a fait ça certainement très très bien. Les sages-femmes d'ailleurs improvisaient en fonction de la discussion. Ah, c'est, elle a été, ça s'est bien passé quoi, pour le tournage. Voilà. Alors, le, pourquoi dans le film, pourquoi si le ventre de Claire devient si énorme, puisque c'est le titre du film quand même, énorme, c'est dans le but de parler de la transformation des corps, sans que ce soit un acte volontaire. Voilà. La grossesse chez la femme, la couvade chez l'homme, c'est ce qu'elle nous explique. C'est une façon de parler d'une émotion profonde en jouant avec des éléments de comédie. Voilà. Il est question du corps. Le corps est central dans le film, quasiment un peu comme, comme les, le cinéma des frères Farrelly. Pareil. C'est touchant et c'est drôle. Alors, le, quand le ventre de Claire devient énorme, c'est une manière de parler davantage de ressenti plus que du réel. Le ventre qui gonfle d'un coup est inspiré des phénomènes liés au déni de grossesse lorsque le bébé prend sa place. Porter un enfant qui se construit et grandit en nous, ajoute-t-elle. On peut voir cela comme de la science-fiction. En termes de mise en scène, il était important que le personnage qu'interprète Marina Foïs prenne corps littéralement. Au début du film, elle n'occupe pas l'espace dans le cadre et petit à petit, elle va prendre sa place. Ça, c'est pour expliquer quand même hein, le titre et comment ça se passe. Bon, ça se passe pour le personnage principal. Voilà, ça dure 1h41. C'est très sympathique, en fait, comme film. Très, très bien joué, très bien. Bon, voilà, avec une mise en scène impeccable. Énorme. Et, ah, ben là, est-ce qu'on n'avait pas, est-ce que tu n'avais pas une bande-annonce, là, Damien ?
Si, évidemment, on écoute la bande-annonce de Énorme.
Claire a été fabuleuse.
C'est même plus des doigts, c'est des nuages.
Vous, vous faites comment ? Avec les enfants ?
On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps.
I'm the husband, I'm the agent, I'm the bodyguard, I'm Fred. Don't be afraid. Nice to meet you.
Vous êtes plutôt jeunes, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ?
Mais elle, elle veut pas d'enfant.
C'est toi qui t'occupes de tout. De sa pilule et tout ça.
Je suis raccourd de vous.
On dirait une petite pilule, ça.
Quoi ?
J'ai grossi.
T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique.
Mais c'est quoi ces messins ? Ils sont énormes.
Ah oui, il y a une grosseur, là.
Une tumeur ?
Ah bah, je comprends. Bah, c'est un bébé.
Un bébé cancer ?
Coucou, le cucu.
Comment t'as pu me faire ça ?
Écoute, Claire, je vais m'en occuper.
Tu vas faire tout seul ?
Votre femme, elle va plus vous accompagner.
Elle travaille. Mais ouais, toi.
Ouais.
Je te présente Biboune.
Oh, bonjour Biboune, comment ça va ?
Et moi, c'est Claire.
Oh, bonjour Claire, ça va ?
J'ai mangé du camembert et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin.
Tu es folle ?
Mais moi, je veux du fromage, je prends du fromage.
Il n'y a pas de fromage, c'est du poison, ça ! Biboune ! Biboune ! C'est moi qui vais l'allaiter, madame.
Les hommes allaitent maintenant.
On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon.
Vous avez vu une psychologue ?
Non,
on n'a pas besoin.
Énorme. Voilà. Très, très chouette. Alors ensuite, on va passer à toute autre chose. Eh oui, ça s'appelle, enfin le film dont on va parler maintenant s'appelle Antigone. Alors Antigone, bah oui, c'est un drame, québécois et canadien de Sophie de Rasp. Je ne sais pas si on prononce le S, de Rap ou de Rasp, je ne sais pas. J'ai pensé que c'était mieux de prononcer le S. Réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie. Elle a 46 ans, elle a eu des nominations déjà dans sa carrière. De ce côté-là, elle ne se plaint pas. Et ensuite, c'est quoi l'Antigone ? Antigone, c'est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser. Alors Antigone, on a dans les rôles principaux, Antigone, c'est Naïma Ritchie, On a Rachida Wousada, on a Nour Belkiria, Rawad El Zain, qui joue d'ailleurs le frère, Polinis. Il est bien. Les personnages vont très bien avec le film. Enfin, c'est un bon casting, en fait. Alors, c'est une tragédie. Pourquoi ? Ben, Antigone, on connaît quand même Antigone. C'est d'abord une pièce de théâtre de Jean Anouilh, dans les années 40 à peu près, qui était elle-même une réécriture de la pièce du même nom de Sophocle, philosophe, inspiré du mythe antique d'Antigone, la fille d'Œdipe. Oula, ça c'est tout un... Cette histoire d'Œdipe, bah d'ailleurs, vous connaissez certainement, mes chéris, l'expression avoir le complexe d'Œdipe. On en parle parfois. Enfin, c'est surtout chez les psychanalystes qu'on en parle, hein, quand il y a un gros souci. Mais bon, la réalisatrice, donc, Sophie Derap, ou Derap, je ne sais pas, elle a été marquée par cette tragédie à l'âge de 20 ans. Elle nous dit, en parlant d'Antigone, hein, son intelligence, sa sincérité, son incorruptibilité m'ont immédiatement séduite. Malgré son jeune âge, son peu d'expérience et la puissance de son adversaire, alors son adversaire c'est le roi, Antigone se tient debout. Cette tragédie fut pour moi si vivifiante, nous dit-elle, qu'après la version de Jean Anouilh, j'ai ensuite lu l'original de Sophocle. J'y ai découvert une Antigone dont la quête de justice est d'autant plus forte qu'elle est appuyée sur des lois qu'elle juge supérieures à celles des hommes. Antigone parlait tellement à la jeune femme que j'étais, ajoute la réalisatrice, qu'une forte intuition me disait que j'y replongerais un jour. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Hein. Donc, c'est des années après cette lecture qu'elle a entendu une entrevue donnée par les sœurs de Freddy Villanueva, qui est décédée dans un parc de Montréal-Nord lors d'une intervention policière qui a mal tourné. Oula, la cinéaste s'est alors mise à imaginer que cette sœur pouvait être une Antigone, justement. Elle nous dit « Je crois que la fiction s'est développée à partir de là. J'ai voulu faire vivre à notre époque et dans le cadre social de nos villes occidentales l'intégrité d'Antigone, son sens de la justice et sa capacité d'amour. J'ai voulu aussi qu'Antigone demeure très jeune, 16 ans, hein, elle a, et menue physiquement, afin de faire ressortir la force intérieure de celle qui oppose ses valeurs personnelles aux lois officielles des hommes. » C'est sûr que le personnage d'Antigone, de toute façon, qu'on l'ait lu ou qu'on ait lu Sophocle ou qu'on l'ait vu au théâtre aussi d'ailleurs, ou qu'on ait lu Anouilh justement, la pièce d'Anouilh, en fait, le personnage d'Antigone est quand même très marquant. C'est un personnage féminin quand même. Ça, c'est ma propre opinion, mes chéris, hein, mais c'est vrai que le personnage d'Antigone, c'est pas n'importe qui Antigone, c'est quand même... C'est une figure emblématique, assez extraordinaire. Alors en fait, elle, la réalisatrice, elle voit son film comme un conte, voilà, qui s'inscrit dans un réalisme social. Voilà, par exemple, elle a scindé la figure royale de l'autorité en différentes fonctions. Il y a la police, les magistrats, les agents correctionnels et la figure paternelle. « J'ai cependant gardé, nous dit-elle, une scène plus étrange où Antigone est interrogée par une psychiatre aveugle nommée Teresa, une incarnation moderne du devin Tirésias, qu'on trouve hein, dans la pièce ou dans le conte de Sophocle. Hein, Tirésias, c'est son nom. Au-delà du jeu des associations créées entre le devin de la tragédie grecque et la figure contemporaine d'une psychiatre, je trouvais primordial d'ouvrir un espace où l'inconscient d'Antigone puisse parler et faire comprendre la force qui l'anime et la rend héroïque. Antigone, elle se sent investie d'un devoir supérieur envers ceux et celles qui l'ont précédée. » Jean Béguet. Eh oui, pour ça, c'est un personnage extraordinaire. Alors, elle a voulu, ben comme dans la tragédie grecque, en fait, hein, la réalisatrice a voulu que l'histoire d'Antigone soit encadrée dans le film par des interventions du cœur, le cœur de chant, hein, cœur musical, un collectif qui, sans être directement impliqué dans l'action, commente les événements vécus par les personnages. C'est ça le cœur, hein. Il y a des voix. Donc c'est, en fait, elle trouve que les réseaux sociaux agissent exactement de la même manière dans le grand théâtre de la sphère sociale contemporaine. Elle ajoute, ils sont désormais le murmure de la cité. Les cœurs réseaux sociaux prennent position au fur et à mesure que l'histoire avance. Ils commentent les faits, ils les tordent parfois ou s'en inspirent. Quand Antigone est malmenée dans la représentation qu'il donne d'elle et de ses frères, son ami Aemon contribue à faire rayonner sa cause. Finalement, Antigone puise aussi dans ses cœurs une puissance et un élan qui donnent à son action une portée qui dépasse le cadre de sa famille. C'est quand même... Le casting a été... C'est un long casting, en fait. Sophie, elle a lancé un appel à travers les réseaux sociaux et elle a sollicité l'aide de professeurs qui enseignent à la jeunesse diversifiée qui reflète aujourd'hui le Québec. Oui, j'ai dit hein, que c'était quand même... c'est un film canadien aussi, hein, québécois. Canadien. Donc là, on est là-bas, en fait, hein, quand on est dans ce film. Elle a reçu 850 candidatures et elle a vu près de 300 personnes en audition. Ah ouais. Et la plupart des acteurs et des actrices ayant du film qui ont été retenus, interprètent pour la première fois des rôles principaux. Dont d'ailleurs Naïma Rishi qui joue le rôle d'Antigone et qui était toute désignée pour le rôle titre. Voilà, donc c'est pareil, un casting soigné aussi, une mise en scène soignée, une très belle histoire, quelque chose de qui prend quand même, hein, qui prend aux tripes quand même, hein, cette histoire d'Antigone. Oh ben mes chéris, pour ceux qui ne se souviennent plus, oh ben il suffirait de reprendre un peu l'histoire d'Antigone. Moi je conseille plutôt l'histoire de Sophocle, hein, je pense que c'est plus facile pour revoir un peu Antigone et voir tout ce qu'elle a fait. Qui était cette héroïne, ce personnage. Mais le film est très chouette, voilà. 1h49, je ne sais pas si je l'avais dit, oui, non. Ensuite, ensuite. Là, j'ai trouvé que c'était pareil, que c'était un très très beau film. Donc, je voulais absolument en parler. C'est « La jeune fille à l'écho », ça c'est le titre. La jeune fille à l'écho. Écho, c'est-à-dire l'écho, le bruit. Hein, c'est un drame, c'est une romance aussi, c'est famille un peu, c'est lituanien. Et c'est un réalisateur-scénariste lituanien, Arūnas Alors pour la prononciation, hein, je ne savais pas trop. Arūnas, bon, c'est facile, c'est le prénom. Zebriūnas. Zebriūnas, c'est le nom de ce réalisateur. Alors lui, il est décédé en 2013, à 83 ans. Et en fait, il a tourné jusqu'en 1988 et il a réalisé La jeune fille à l'écho en 1964, qui a été primé d'ailleurs au Festival de cinéma de l'Union, et puis à Cannes aussi, et à Locarno. Il a eu la Voile d'argent comme prix. Joli prix. Et un an plus tard, il a reçu le prix national de la culture et de l'art de Lituanie pour toute son œuvre. Donc on l'a maintenant, son film, et c'est à partir de 10 ans. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. C'est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral, déjà maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de l'été. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette petite fille, hardie, corps de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa curiosité la guider sans crainte. Vika s'amuse de tout ce qui lui est offert. Les vagues deviennent pistes de danse, le sable immense ardoise et les coquillages une chorale marine. Entre plongeons et baignades, elle rend visite à ses amis, rochers et anthropomorphes, dont elle seule détient le secret du langage. De nature effrontée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de garçons. Autres résidents de cette plage, hors du monde et du temps, Vika leur tient tête jusqu'à démonter leur jeu de pouvoir. Romas, un nouvel arrivant, intrigué par cette fille intrépide, obtient sa confiance et sa sympathie. Elle le conduit jusqu'au creux des règles pour lui confier son secret. Alors le film est adapté d'une nouvelle. C'était une nouvelle de Youri Nagibin, qui est un écrivain, scénariste russe et soviétique. Il est décédé en 1994, à 74 ans. Youri Nagibin a été le co-scénariste d'un film extraordinaire qui s'appelle Derzu Uzala. Alors Derzu Uzala, mes chéris, vraiment, vraiment, on le trouve en DVD, pas cher du tout d'ailleurs. Si vous pouvez le trouver, c'est un petit chef-d'œuvre, Derzu Uzala. C'est le nom d'ailleurs du personnage principal. Et quand on parle de Derzu Uzala, on se dit, quand on voit le film, on se dit qu'on aimerait avoir dans sa vie un ami comme Derzu Uzala. Mais vraiment, quoi. Moi, je l'ai vu 10 000 fois parce que c'est vraiment un film extraordinaire. Et voilà. Et donc, ça explique un peu qui est Youri Nagibin et pourquoi et comment il a pu écrire cette nouvelle sur la jeune fille à l'écho. Parce que quand on co-scénarise un film comme Derzu Uzala, c'est qu'on l'a dans la tête, dans l'esprit. Et c'est un petit chef-d'œuvre, ça dure 1h06. C'est vraiment, c'est beau, c'est très beau. Voilà. Ça ne m'étonne pas que cet homme ait en fin de carrière et qu'il ait eu le prix national de la culture et de l'art de Lituanie. Alors, dans les rôles principaux, on a Lina Braknit. Ouais, Lina Braknit, c'est elle, c'est la petite Vika. On a Valérie Zubarf. Non, attends, que je l'écorche pas. Valériou, parce que c'est Valériou. Zubarov. On a Kadjou Karmas, Bronius Babkuskas. C'était des acteurs connus en Lituanie, mais des acteurs qui maintenant ont vieilli, bien sûr. Hein, la petite Vika, c'était en 64. Donc maintenant, c'est Madame Vika. Et donc voilà, je trouvais que c'était trop beau. C'était un petit coup de cœur, en fait. À partir de 10 ans, si vous avez autour de vous des enfants, des grands-enfants, à partir de 10 ans, franchement, si vous pouvez trouver ce film, emmenez-les le voir. Il est beau. C'est un beau film. Et puis, pour finir, ah oui, voilà, je suis tombée également sur un film que j'ai trouvé, je voulais vous en parler. Ça s'appelle Emma. Emma, E-M-A. Hein, c'est pas Emma avec deux M, mais c'est Emma quand même, c'est quand même un prénom, mais c'est Emma avec un seul M, ce qui est quand même assez rare. Alors le réalisateur, c'est Pablo Larraín. Pablo Larraín, c'est un scénariste, producteur, réalisateur chilien. Il a 44 ans, il a eu déjà pas mal de prix, 4 je crois, presque une cinquantaine de nominations. Son film Emma, qui est un drame, un thriller chilien, a 3 nominations à la Mostra de Venise 2019, meilleur scénario, Lion d'or, prix spécial du jury, voilà. 3 très belles nominations quand même. Hein. Alors Emma, c'est qui ? Emma, c'est une jeune danseuse mariée à un chorégraphe. Son mari, d'ailleurs, est un chorégraphe de renom. Emma est hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie. Alors, dans les acteurs principaux, on a Mariana Di Girolama. Ouais. Oui, c'est des noms un petit peu compliqués, mais bon... pas très difficile à prononcer, un petit peu compliqué. On a Gaël Garcia Bernal, on a Paolo Giannini et Santiago Cabrera dans les rôles principaux. C'est un joli casting parce qu'ils sont d'abord talentueux, ils sont beaux comme tout, et tout à fait à la hauteur du film. Alors c'est quoi le point de départ d'Emma ? C'est le traumatisme d'une adoption ratée. Ouais. Le réalisateur nous dit « Je pense que l'adoption est une des choses les plus généreuses qu'une personne peut faire, mais étrangement, elle est souvent idéalisée. » Les parents traversent beaucoup de situations, mince, encore pas ma famille, traversent beaucoup de situations problématiques et l'enfant porte parfois avec lui un traumatisme parce qu'il a été maltraité. Voilà ce qu'il nous explique. Effectivement, c'est, l'adoption, c'est généreux, mais c'est quelque chose de très, très, très délicat, très difficile. Et bon, voilà, on ne connaît pas l'enfant qu'on va adopter et si effectivement il a subi des traumatismes, s'il a été vraiment malheureux, s'il a, c'est sûr que ça peut avoir des conséquences assez terribles. Dans quelques cas, d'ailleurs, il nous dit des parents rendent l'enfant qu'ils ont adopté. Rendent, entre guillemets, c'est terrible comme mot là. L'enfant est alors à nouveau orphelin jusqu'à une prochaine adoption. Et il perd le patronyme de ses anciens parents comme s'il ne les avait jamais connus. Terrible, c'est terrible. Alors, à l'origine, Emma, elle devait avoir 45 puis 65 ans avant d'être considérablement rajeunie. Donc, le réalisateur a construit le personnage avec l'actrice Marina Di Girolamo. Marina Di Girolamo. Ensemble, ils ont eu l'idée d'une danseuse de reggaeton. Voilà. Le réalisateur était conscient que son héroïne serait d'une génération bien différente de la sienne. Cette génération appartient au siècle actuel. Quel que soit le nom qu'on leur donne, leur logique, leur structure et leurs valeurs sont complètement différentes. Emma incarne cette génération et cette complexité qui m'a fascinée. Il a été d'ailleurs particulièrement frappé par la conscience écologique de cette jeune génération, ainsi que par sa sensualité et sa sexualité non binaire. Ils sont très individualistes, nous dit-il, mais dans un sens, ils sont très respectueux des autres. Donc Emma est un personnage avec un réel potentiel poétique, pouvant transmettre beaucoup d'émotions, de crises et d'accidents différents. J'aime assez, moi, je trouve sympathique qu'il soit étonné et frappé par la conscience écologique de la jeune génération. Mais c'est sûr, moi j'y crois ça, je pense, moi en tant qu'individu, mes chéris, moi je pense qu'effectivement la jeunesse actuelle est très consciente de que l'écologie devient quelque chose d'important et même qu'on ne peut absolument pas mettre de côté. L'écologie est en tête de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qui existe. Moi, je suis persuadée que la jeunesse est très sensible à ça et qu'ils ont très bien compris le problème. Je suis comme ce monsieur, comme Pablo Larrain. J'aime assez qu'il en parle comme ça, d'ailleurs. Il considère, lui, que son héroïne représente Mère Nature. Elle est à la fois une mère, une sœur, une fille, une amante, une épouse, une danseuse. Et elle est le soleil. Dans la mythologie, nous dit-il, le soleil représente le masculin et la lune le féminin. Je pense qu'ici, Emma est le soleil et que tout le monde tourne autour d'elle. Voilà. Donc c'est un très très beau film, sûrement. Moi aussi. Je voulais absolument en parler. Parce que je me disais que quand même, ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Et bien, c'est pour Marina, en tout cas, dit Girolamo. C'est pas facile. Pourtant, j'essaie de pas. Je déteste écorcher le nom des acteurs. Elle tient son premier grand rôle au cinéma avec Emma. Ah oui. Elle est issue, en fait, d'une grande famille d'artistes. Et elle a été formée à la prestigieuse école de théâtre de l'Université catholique du Chili. Donc, elle a d'ailleurs fait déjà de la télévision dans une série télévisée en 2004. En 2015, elle a commencé à faire du théâtre aussi, dans une pièce de Shakespeare d'ailleurs. Elle a commencé par Shakespeare, La Tempête. Elle n'a pas commencé par le plus facile. Voilà, et là, c'est son premier film. On va redire son nom, Marina Di Girolamo, quand même. Voilà, alors ce film, il dure 1h42, je l'avais dit ou pas, ce film chilien magnifique. Eh oui, un grand réalisateur chilien, qui est très connu chez lui d'ailleurs. Il a eu, bon, il a eu énormément de prix, etc. Mais il est très, très, très estimé chez lui comme réalisateur. Voilà. D'accord. Eh bien, Damien, nous allons nous quitter.
Ok. Eh bien, merci okay. beaucoup pour toutes ces sorties cinématographiques de la semaine.
Et on... ce sont des beaux films, là, quand même. Il y a un peu de tout, mais je trouve que c'est du bon cinéma, là, qu'il y a cette semaine. Bon, pour les dates, hein, ce n'est pas évident. On n'oublie pas que Blood Machine, c'est donc, ça sortait mardi. Donc, il se trouve, bien sûr, hein, mais bon, il est sorti plus tôt. Tous les autres, bon, ben, c'est des dates normales. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de changements. Bon, on essaie de suivre. Hein, on essaie, de Radio Entre-deux-Mers, on essaie quand même de suivre les dates de sortie qui sont changées constamment. Et j'espère qu'on y arrive un peu. En tout cas, merci Damien pour les bandes annonces. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, chers auditeurs. Mais oui, voilà, profitez du soleil tant qu'il est là. Hein. Profitez l'été qui continue un petit peu. Ça va remonter, je crois, les températures un petit peu. Ça va faire du bien, quand même.
C'est sûr qu'on est encore en été un petit peu.
Si, ça va remonter un peu, oui, un petit peu. Donc, il faudra en profiter, vraiment. Surtout que là, maintenant, c'est la rentrée scolaire est terminée, je pense. Enfin, c'est fait, ça y est, c'est commencé. Donc voilà, vous allez pouvoir peut-être un petit peu dans la journée, ouf, respirer un peu pendant que les petits mignons seront à l'école. Je ne dis pas qu'ils sont dérangeants, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même. Hein. Un petit peu de ouf, se retrouver soi-même. En tout cas, bon, restez toujours vigilants. Hein. Bon, on a toujours ce problème qui est de Covid. Donc voilà, le masque, on l'a dans la poche, dans le sac. Enfin, on l'a quelque part sur nous et on le met dès qu'on en a besoin. Et puis, on fait attention aussi à notre entourage, bien sûr. Et puis surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.